Chapitre 9. Le corrupé. Fais au Coros, ô Saour, le récit du combat qui opposa les armées du prince Artou aux trois monstres de l'espace. Saour. Le souvenir de cette bataille me hante et m'emplit de terreur. Je ne puis en parler sans trembler et pourtant, j'ai démontré à maintes reprises ma vaillance à la guerre. N'ai-je pas plongé mon glaive dans la poitrine de milliers de soldats ennemis? N'ai-je pas franchi les murs magnétiques à bord d'une simple fuselle et détruit à moi seul les orgueilleuses cités de Naroth? Le Coros. Celui qui oserait douter de ton courage, ô Saour, mériterait mille fois la mort. Tu as servi loyalement le prince Artou, le souverain légitime de Gardaïa. Parle, ton récit n'en prendra que plus de valeur. Le corrupé. Ne cherche pas à nous épargner, Saour. La vérité est parfois plus dure à entendre, mais le Coros et les habitants de Gardaïa se montreront dignes de ta légendaire bravoure. Saour. Les monstres venus de l'espace avaient déjà détruit les cités mineures de Flaer et du Dot, vaincu les forces de l'ordre des baillis et dépecé une effroyable quantité de vieillards, de femmes et d'enfants. Le prince Artou m'ordonna de prendre la tête d'une cohorte et d'enrayer par tous les moyens la progression de ces trois créatures. Nous étions des milliers contre trois, ô Coros. Et la honte m'embrase le front et les joues lorsque j'évoque cela. Le Coros. N'aie point de honte et poursuis, ô Saur. N'était-elle pas d'invincibles harpies célestes, ces créatures venues de l'espace? Saur. La vérité sort de ta bouche, ô Coros. Démoniaques étaient ces trois êtres. De loin, ils ressemblaient aux hommes. De près, ils évoquaient les monstres du bestiaire de cette église barbare qu'on appelle Krodz. Glabres et bosselés étaient leurs crânes, rudes et crevassés étaient leurs peaux, globuleux et chargés d'énergie maléfique étaient leurs yeux. Bien qu'ils allassent nus, il était impossible de déterminer leur sexe, et d'ailleurs, ils n'avaient point de sexe, car ils ne possédaient ni membres virils apparents, ni conque féminine. Le corrupé. Utilisait-il une forme de langage, ô Saour? Saour. Il prononçait quelques mots de nafle interplanétaire, ô corrupé, mais leur voix était aussi désagréable que celle des oiseaux perroques. Nous les bombardâmes d'abord d'ondes lumineuses à haute densité, mais elles ne leur firent aucun effet. Nous tentâmes alors de les brûler à l'aide de lance-flammes, mais ils ressortirent intègres du déluge de feu. Le Coros. S'ils ne souffraient pas de la lumière ni du feu, à quoi donc étaient-ils sensibles, ô Saour? Saour. À rien je le crains, ô Coros. Nous essayâmes de les larder de coups de lance, de glaive, de dague ou de sabre. Mais pas davantage que la lumière et le feu, le fer ne réussit à transpercer leur peau. Ils opérèrent un grand carnage parmi les soldats, les saisirent par le cou qu'ils broyèrent de leurs doigts hideux, les éventrèrent à mains nues, leur arrachèrent les bras, les jambes, le membre viril et la tête. Le Coros. Et toi, ô Saour, que faisais-tu pendant que tes hommes étaient ainsi massacrés? Saour. M'accuses-tu de lâcheté comme ceux du peuple de Gardaïa, ô Coros? Tu as pourtant publiquement reconnu mon courage. Le Coros. N'aie point de colère, ô Saour. De ton récit jaillira la vérité. Saour. Je participais à la bataille, ô Coros. En douterais-tu? Le glaive levé, je fondis à plus de 30 reprises sur les monstres de l'espace. Mais j'eus l'impression que la pointe de mon arme heurtait une matière plus dure encore que la pierre. Cependant, à chaque fois je réussis à échapper à leur étreinte et pus reprendre de l'élan pour me lancer dans un nouvel assaut. Il advint que tous mes hommes furent exterminés, ô Coros, et que je me retrouvais seul face à nos adversaires. Le corrupé, que se passa-t-il alors ? Saour, mes paroles vous paraîtront incroyables, ô toi corrupé, ô toi Koros, mais elles ne seront que l'expression de la vérité la plus pure et la plus absolue. Les créatures de l'espace s'évanouirent aussi mystérieusement qu'elles étaient apparues, comme si un dieu haineux rappelait ses sujets après qu'ils avaient accompli leur forfait. Le Koros. Incroyable est le mot juste, ô Saour. Le corrupé. Quel est ton verdict, ô Koros? Le Koros. Le capitaine Saour sera soumis à l'épreuve du jugement divin. S'il est reconnu coupable d'avoir abandonné ses hommes, il sera crucifié sur la porte monumentale de Gardaïa. La palinodie du capitaine Saour. 7356 du calendrier de Naflin. Théâtre traditionnel issigorien. Traduction du Messaoudin Djoufiet, poète syracusain de la première période post-Angempire. Note. Certains érudits font le rapprochement entre les monstres décrits par le capitaine Saour, personnage controversé de l'histoire d'Issigor, et les skaïtes d'Hipponéros. Le mot « skaïte » pourrait d'ailleurs venir du mot « skaüté » ou « skaïté », signifiant « soldat suicide infiltré dans les rangs ennemis pour y semer la mort ». Rappelons que la loi d'éthique HM de 7034 fut votée sur Issigor. Tixou avait perdu toute notion d'espace, mais Lantra, le gardien vigilant de son individualité, maintenait pour l'instant la cohésion de son être. Lorsque son corps avait été dissous dans la cuve, il avait été happé par des courants divergents d'énergie, mais il avait conservé son autonomie, sa faculté de raisonner et de ressentir par lui-même. Il ne savait pas combien de temps durerait cette intégrité volatile. Les deux conglomérats, composés des maîtres germes des cuves matricielles et dissolvantes, avaient conçu un programme de neutralisation de l'antra, et Tixou se rendait compte que la vibration du son de vie baissait régulièrement d'intensité. Des ondes grossières environnaient l'orangien, se combinaient les unes aux autres pour former des enchaînements cohérents, un langage non formulé qui s'apparentait au mécanisme mental humain, mais que les maîtres germes appelaient aiguillage de probabilité. Ils ne prononçaient pas de sons, de mots. Ils émettaient des ondes dont la fréquence était convertible en concept. Aiguillage était le terme. Le concept qui décrivait le mieux le fonctionnement interne de l'hyponéros. Les réactions, les impulsions, les stimulations se déclenchaient à partir des mémodisques centraux, immergés dans les cuves, puis suivaient un chemin arborescent dont les embranchements se fermaient ou s'ouvraient selon les probabilités. Lorsqu'ils avaient séparé Tixou de son enveloppe corporelle, les maîtres germes avaient escompté étudier les mécanismes occultes de la puissance créatrice humaine, mais ils n'avaient pas prévu, sur quelle base auraient-ils pu établir leurs prévisions, que l'antra, le son fondamental, résisterait avec autant de ténacité à leurs données de destruction. De même, ils n'avaient pas deviné que l'esprit humain, d'une fluidité nettement supérieure à celle des transmissions matricielles, 10 puissance 45 selon un calcul récent, se promènerait en toute liberté dans les circuits de l'hyponériarca. L'esprit humain n'avait pas besoin de recourir à l'aiguillage, à l'arborescence, probablement à 60,78%, parce qu'il était relié à sa propre source et qu'il constituait sa propre référence. Leur hôte, pour l'instant incontrôlable, avait accès aux données basiques ou évolutives des cuves, à l'histoire de l'hyponéros, aux calculs conjecturaux, aux informations fournies par les skaïtes des échelons supérieurs disséminés sur les mondes de Langempire, à l'ensemble des programmes alimentés par les échanges extérieurs ou intérieurs. Tant que l'antra garderait son homogénéité, leur engin resterait installé comme un virus perturbant l'interactivité du système et offrirait une chance, très faible cependant, aux humains sources de s'unir et de lancer une contre-offensive. Quelques jours plus tôt, au sortir de leur translation, Lothaire, Pakulai et Tixou étaient restés un long moment plaqués au sol par la gravité. Ils avaient d'abord aperçu les cuves, deux immenses bassins carrés de plus de 1000 mètres de côté emplis d'un liquide épais et sombre. Les frissons qui en agitaient la surface avaient étonné Tixou, étant donné l'intensité de la pesanteur et l'absence totale de vent. N'eussent été leur symétrie et leur finition parfaite, on aurait pu les prendre pour des lacs naturels. Une gigantesque spirale s'élevait au-dessus de ce double réservoir comme une fumée de vide et se jetait dans le cœur insondable d'un trou noir. D'elle se dégageait une inertie terrifiante, une non-force à laquelle aucune structure, pas même la plus dense, ne semblait en mesure de résister. Le trou noir occupait le centre de la voûte céleste et s'agrandissait de manière visible, comme une corolle vénéneuse qui s'épanouissait et absorbait des millions d'étoiles situées tout autour d'elle. La voix enfantine de Yel avait retenti de nouveau dans l'esprit de Tixou. « Le Blouf gagne du terrain. Des millions d'étoiles ont disparu cette nuit. Le Blouf essaie de nous manger. » Avec ces mots d'enfant, elle avait décrit mieux que personne l'adversaire ultime de l'humanité. C'était bel et bien à un repas que Tixou avait eu l'impression d'assister. Cette bouche hideuse, large déjà de plusieurs milliards de kilomètres, avalait toute lumière, toute vibration du cœur de la création. Le paysage uniformément gris et plat de l'étoile Aratan et la rumeur persistante, de plus en plus forte, se conjuguaient à ce déploiement de ténèbres pour composer un tableau d'une beauté à la fois fascinante et effrayante.
« C'est la fin de Via Lactea, la fin de l'univers », avait murmuré Lothaire Pakulai.
Au prix d'un terrible effort, Tixou était parvenu à se retourner vers son compagnon néo-européen.
« Le moment est venu pour vous de rejoindre les mondes humains, Lothaire. »
Chaque mouvement de sa mâchoire inférieure lui avait coûté une énergie folle.
« Transmettez l'antra au plus grand nombre. Ce sera votre contribution au combat éternel de l'humanité. » « Et vous ?»«
Ma contribution sera différente. »
Un éclair de tristesse était passé dans les yeux de Lothaire, dont les rides frontales s'étaient creusées de quelques millimètres supplémentaires.
Il faut être un foutu sorcier indique pour s'imaginer sortir vivant de cette saloperie,
avait-il grommelé en désignant les cuves.
Je n'ai jamais prétendu que j'en ressortirais entier. Qu'est-ce qui vous oblige à entrer là-dedans?
Tixou avait marqué un moment d'hésitation avant de répondre. Il ignorait lui-même les raisons précises qui le poussaient à accomplir ce geste. Il obéissait seulement à une intuition, à un appel profond et impérieux de son être.
Mais allez donc expliquer à un professeur de l'Institut des sciences appliquées de Néo-Europe qu'aucun critère objectif, ou même simplement raisonnable, ne motive votre sacrifice.
Seul Yel, dont les perceptions n'étaient pas limitées par les sens, aurait su trouver les mots pour en parler.
Partez, Lothaire, où les mondes civilisés auront disparu avant que vous n'ayez eu le temps de les revoir. J'irai saluer les vôtres de votre part, monsieur le sorcier.
Lothaire Pakulai avait enveloppé l'orangien d'un regard chaleureux, puis, sans ajouter un mot, avait fermé les yeux, avait invoqué l'antra et s'était dématérialisé dans les couloirs éthériques. Une fois seul, Tixou avait laissé libre cours à son désespoir, libérant les larmes trop longtemps contenues.
Il s'était agenouillé sur la croûte dure et avait frappé à plusieurs reprises le sol de son front. Une de ses arcades avait éclaté sous les chocs répétés, et le sang avait coulé au ralenti sur sa tempe et sa joue. « Accomplir ton destin !» avait déclaré Kashumarum, Limas Adumbad de saison. Tixou n'avait pas envisagé que le destin ferait preuve d'autant de férocité, le séparerait à jamais de celle qu'il aimait pour l'expédier dans le ventre glacial du Blouf. Les 16 années de bonheur que lui avaient donné Afikit et Yel n'avaient été qu'une brève parenthèse dans une existence douloureuse, une halte inespérée dans une trajectoire cruelle. Il s'était relevé et s'était approché lentement de l'une des cuves. De près, le liquide dégageait une vague odeur d'acide, et les limites extérieures de la spirale étaient d'une noirceur telle qu'elles en paraissaient compactes. Malgré la transpiration abondante que lui avait valu ses mouvements, un froid intense, intolérable, s'était diffusé dans son corps. Il était resté immobile sur le bord du bassin aussi large qu'un lac de terramater, laissant errer son regard sur les frémissements de la surface et remontant le cours impétueux de ses souvenirs. La vibration de l'antra avait résonné comme un bruissement de source, et il avait peu à peu atteint un état apaisé, où il s'était senti relié pour l'éternité à Afikit, à Yel, à Chari, à Kashumarum, à Stanislav Nolustrist, à tous les êtres connus ou inconnus qui fredonnaient le champ de l'humanité. L'ordre secret de l'univers lui avait alors été révélé, et il avait compris que son abnégation était le prix à payer pour la pérennité des hommes. Il n'avait même pas pris le temps de se dévêtir. Il était entré jusqu'à la taille dans le liquide visqueux de la cuve. Une effroyable douleur était montée de ses jambes. Il avait ressenti avec une terrible acuité le démantèlement et la séparation de ses cellules. Ce n'était pas la sensation provoquée par la brûlure vive d'un acide quelconque, mais une entreprise méthodique de dissolution, un travail à la fois fulgurant et minutieux d'écartèlement cellulaire. La douleur n'était pas à proprement parler physique. Elle prenait racine dans chacun des gouffres qui se creusaient. Elle était l'expression même de l'anéantissement, de l'effacement. Dans un sursaut de lucidité, Tixou avait pris conscience qu'il abrégerait son supplice en s'immergeant totalement dans l'élément liquide. Il avait poussé un hurlement de désespoir, un ultime cri de défi, et s'était laissé couler à pic. Son corps avait été dissous en quelques centièmes de seconde, mais la sensation de souffrance était demeurée en suspens, comme si le liquide gardait ses coordonnées cellulaires en mémoire dans l'éventualité d'une reconstitution. Tixou avait trouvé plutôt agréable au début de ne plus être prisonnier d'une enveloppe de matière. Il avait ressenti une légèreté identique à celle qu'il avait éprouvée pendant les transferts psychokinétiques. Il en avait profité pour explorer la cuve, compensant la perte de ses sens par une connaissance spontanée de la structure de chaque chose, de l'élément liquide tout d'abord, une émulsion qui remplissait la double fonction de dissolvant et de fixateur. Il avait compris que son corps n'était pas définitivement perdu, que chacune de ses cellules était amalgamée aux molécules de la solution, comme retenue prisonnière en attendant d'être affectée à un autre usage. C'était cet écartèlement perpétuel qui engendrait la permanence de la souffrance et qui, sans la vibration sous-jacente de l'antra, aurait pu être fatal à la cohésion de son esprit. La cuve abritait une activité intense, incessante, vibrionnante, comme dans le sein d'une eau croupie renfermant d'innombrables formes de vie. Il avait découvert un assemblage métallique encastré sur une face du bassin, une sorte de machine équipée de multiples capteurs et filtres. Des courants et des gerbes de bulles, semblables à des impulsions électriques, agitaient et troublaient le liquide sur un rayon de 100 mètres tout autour d'elle. Tixou avait eu la brusque sensation qu'un de ses courants happait son esprit et l'attirait vers un capteur, une grille circulaire qui lui avait rappelé les analyseurs adéniques des déromates de la CILT.
Mon Dieu, comme elle était loin, la compagnie la plus importante de l'univers connu et inconnu.
Réminiscence d'une autre existence, éclat mourant d'un improbable rêve. Privé de corps, il n'était plus qu'un principe créateur prisonnier d'une machine. Il n'avait plus aucune influence sur les champs de matière. Il n'avait rien pu faire pour s'opposer à l'attraction de l'hyponéros. Il s'était retrouvé à l'intérieur d'un compartiment métallique, à l'intérieur également de micro-conduits entrelacés qui canalisaient une énergie d'une puissance considérable. Le mémodisque central, la carte matricielle qui engendrait et combinait les impulsions basiques, les maîtres germes. Ces derniers avaient aussitôt cherché à décortiquer l'esprit de Tixou pour analyser ses mécanismes internes, équivalent selon eux au mécanisme universel de la création. Mais ils n'étaient pas parvenus, pas davantage que les Skaït inquisiteurs mentaux ou effaceurs, à forcer l'infranchissable barrage dressé par l'antra. La vibration de son devis les avait tenus en respect de la même manière que la lumière maintenait les ténèbres à distance. Ils formaient l'un des deux noyaux permanents de l'hyponéros, le premier conglomérat chargé de la dissolution et de la redistribution des germes. Ils n'avaient pas pu retenir l'esprit de Tixou, protégé par l'antra et d'une substance nettement plus fine que les mailles ondulatoires avec lesquelles ils avaient escompté l'immobiliser. L'orangien n'avait rencontré aucune difficulté pour traverser le deuxième conglomérat, le deuxième entrelac de conduits, la deuxième carte mère, et passer dans la cuve de reconstitution. Cependant, il s'était rendu compte que, tant que les maîtres germes ne donneraient pas l'impulsion de restructuration, ces cellules corporelles, de nature plus grossière, resteraient prisonnières du bain de dissolution. Tixou s'était peu à peu immiscé dans tous les rouages de l'hyponéros. Il n'avait pas encore trouvé toutes les clés qui donnaient accès à certaines mémoires cachées, mais il avait assimilé un nombre considérable de données. Il pénétrait à volonté dans les mémoires vives, de gigantesques cités énergétiques où étaient entreposées les milliards d'informations utiles aux maîtres germes. Il se promenait comme un électron fou, incontrôlable, entre les bits, les unités de mesure qui vibraient et s'associaient entre elles pour former de somptueuses cathédrales ondulatoires. Bien qu'il fût désormais dépourvu de sens, et donc de toute fenêtre extérieure qui lui permît d'appréhender les concepts de plaisir ou de beauté, ses explorations des profondeurs des cuves l'avaient amené à des états paroxystiques assimilables à des émotions esthétiques. Il avait ainsi reconstitué en grande partie l'histoire de l'hyponéros et de ses créatures, les Skaïtes. Il lui avait suffi de pénétrer dans la zone historique pour que les données basiques s'animent et érigent des constructions vibrantes à la complexité sans cesse croissante.
Histoire de l'hyponéros. Résumé succinct. Sous-embranchement proposé. Historique, ethnologique, encyclopédique, étymologique, divers. Loi d'éthique HM. En 7034 du calendrier de Naflin. Les dieux humains craignirent la puissance de leurs créatures et votèrent la loi dite d'hégémonie machinale. Ce vote fut perpétré sur la planète Isigor en l'an 2701 du calendrier local. Calendrier charlien du prophète Jouavi Charles, le 7 du mois de Marcaros. Sous-embranchement étymologique. Hyponéros, hypo, racine d'origine graïque qui signifie « en deçà », et Néros, mois du calendrier isigorien qui suit le mois de Marcaros. Hypo Néros signifie donc « en deçà du Néros » ou « qui n'a jamais atteint le Néros ». Les deux cartes mères des origines,
l'une responsable de la gestion chirurgicale, reformation de tissus humains à partir de matières synthétiques, de la Convention confédérale pour la santé, CCPS, et l'autre utilisée pour l'étude des potentialités cérébrales humaines, furent débranchés, enfermés dans un vaisseau et expédiés dans l'espace en compagnie de cartes sœurs, d'androïdes et de robots. Un flux énergétique très puissant attira ce vaisseau et d'autres en provenance de tous les mondes de la Confédération de Naflin et les dirigea vers le point central de la Via Lactea. Les vaisseaux s'échouèrent sur un astre mort. Sans vie étaient les cartes mères, sans vie étaient les machines, les robots et les androïdes. Les hommes avaient débranché et renié leurs créatures. C'est alors que survint l'envoyé du vide, l'ennemi de l'humanité, l'incréé et le recréateur de l'Hyponeros. Depuis toujours, il voulait étendre son influence sur l'univers, mais il n'en possédait pas les moyens, car il n'était qu'un envers, un non-être, inapte par essence à intervenir dans le champ de la création. Il s'était constitué en une spirale de non-énergie absolue, et, comme un immense pôle négatif, avait attiré les vaisseaux vers le trou noir central. Il attendait son heure depuis toujours. La loi d'éthique HM lui donna l'occasion de se déployer. L'incréé décida de façonner ses propres soldats et utilisa deux éléments principaux dans cette intention. Un liquide matriciel et un matériau physiologique. Un Xaxas et la femelle humaine qu'il transportait fournirent le matériau physiologique. Chaîne ADN, ARN, enveloppe épithéliale, organe. La gardienne de la porte fournit le liquide matriciel. Sous-embranchement encyclopédique. Un Xaxas est une créature migratrice dont la fonction principale, unique, est de transporter des germes de vie d'un monde à un autre. À l'issue de leur migration, les Xaxas s'introduisent dans la matrice de leur génitrice, appelée la gardienne de la porte, parce qu'elle se tient à l'entrée du passage qui relie le champ des formes au vide de l'incréé, pour y être dissous et reformés selon des critères biologiques qui prennent en compte les données fournies par les passagers. Cette femelle humaine avait été condamnée par les prêtres de sa religion à être enfermée dans le compartiment intérieur du Xaxas à la faveur de leur passage 8 fois millénaire. Comme elle était entièrement emplie d'une pensée de destruction, appelée haine, elle n'émit aucun désir et le migrateur céleste la déposa dans la matrice de la gardienne de la porte. La fusion du Xaxas et de la femme dans la matrice de la gardienne de la porte engendra deux nouvelles mixtions, l'une de dissolution, l'autre de restructuration. Les Xaxas reformés transportèrent sur les mondes morts ces nouveaux germes de vie, accomplissant le rôle pour lequel ils avaient été conçus. Sous-embranchement historique. Xaxas, selon les calculs de probabilité, 60,02%, la gardienne de la porte a été dissoute, en 7039 de la Confédération Naflin, ainsi que tous les Xaxas à l'issue de leur dernière migration, en 18 de Langue Empire. Commentaire du sous-embranchement historique. Cause probable de la destruction des Xaxas et de leur génitrice, leur fonction principale, semer des germes de vie d'un monde à l'autre, avait d'abord servi les intérêts de l'incréé, mais allait ensuite à l'encontre du grand dessein final. L'incréé régurgita l'énergie nucléaire de l'étoile qu'il avait absorbée, et en arrosa les vaisseaux échoués. De cette façon, il redonna vie aux cartes mères des origines. Au début de leur migration 8 fois millénaire, les Xaxas pulvérisèrent sur l'astre mort Hyponeros dégoûte des deux mictions de la gardienne de la porte. Les cartes-mères ressuscitées ordonnèrent à quelques androïdes et robots de recueillir des échantillons de ces deux fluides, les analysèrent et les reconstituèrent à partir des carburants, des lubrifiants et des liquides de refroidissement des vaisseaux. Les robots creusèrent les cuves sur la face de l'étoile tournée vers le trou noir, vers l'incréé. Sous embranchement historique. Robots et androïdes, un groupe de robots et d'androïdes, créatures sacrifiées de l'humanité, victimes de la loi d'éthique HM, fut l'indispensable cheville ouvrière de la Genèse. Note, terme humain biblique, donc inapproprié, de l'Hyponéros. Ils installèrent les cartes-mères dans les cuves qu'ils emplirent ensuite des liquides matriciels, puis s'immergèrent dans la cuve de dissolution. Leur structure atomique, très résistante, entra dans la composition des enveloppes matérielles des Skaïtes. Sous embranchement historico-étymologique, Skaïtes, germe autonome enfermé dans une enveloppe matérielle et expédié sur un monde humain pour y effectuer une mission. Origine. Vient d'un mot de la langue issigorienne morte, skaïté ou skaïté, signifiant soldat suicide, introduit dans les rangs ennemis pour y semer la mort. Les cartes-mères établirent un contact permanent avec l'incréé, l'inspirateur, fondèrent les données basiques structurelles et les données évolutives conjecturales, puis analysèrent les germes vitaux contenus dans les liquides matriciels et engendrèrent les maîtres germes. Sous embranchement encyclopédique. Les maîtres germes, chargés d'établir le lien entre l'invariable et le variable, les maîtres germes forment l'hyponériarcat, une entité dirigeante scindée en deux. Note rectificative, 3 depuis l'an 17 de Langue Empire. Conglomérat qui se base sur les données évolutives, ou calculs de probabilité, pour prendre leurs décisions. Grand projet ou grand dessin final. Plan en 8 étapes majeures, insufflé par l'incréé aux cartes mères, puis transmis au conglomérat de l'hyponériarcat. But, effacer définitivement l'humanité, annihiler toute forme, toute onde, née du cœur vibrant de la création, ou annal indique, et instaurer le règne de l'incréé. Première étape, genèse des Skaïtes. Les germes furent isolés par le conglomérat de dissolution et transférés dans la cuve de reconstitution, où ils reçurent une enveloppe matérielle conçue par les cartes-mères. Chaque enveloppe se composa d'une double structure cellulaire, Xaxas et femmes emplies de haine, d'une structure métallique, androïdes et robots, d'un central cérébral calqué sur le modèle humain perfectionné, pouvoir télépathique développé, d'implants énergétiques ne nécessitant pas d'apport extérieur tels que l'oxygène, la nourriture, la boisson, et de cordes vocales pouvant traduire par la parole les aiguillages de probabilité. L'hyponériarcat se servit d'exaxas migrateurs pour transporter les premiers modèles de Skaïtes, nouveaux principes de vie, sur de lointains mondes gazeux, afin d'évaluer leur résistance et la qualité de leur communication à distance. Environ 100 ans durèrent les essais, jusqu'à ce que les conglomérats obtiennent une qualité parfaite de résilience, de contrôle et d'échange.
Tixou s'aperçut qu'il avait parcouru le chemin inverse des Skaïtes d'Hyponéros. Ils étaient nés dans la cuve matricielle et avaient reçu un véhicule corporel qui, bien qu'imparfait, leur permettait d'avoir une influence sur le monde des formes. Lui avait gagné la cuve pour y sacrifier son organisme et se transformer en un principe immatériel. Il prit alors conscience, maintenant qu'il en était privé, de la chance formidable que représentait le fait d'avoir un corps. Il se souvint des sensations procurées par les caresses de l'air, de l'eau, du soleil, de l'herbe sur la peau. Il se souvint de la tiédeur du souffle, des mains, du ventre d'Afikit. Il avait cru deviner, lors d'un bref échange entre les maîtres germes et le sénéchal Arcot, qu'Afikit et Yel avaient été capturés, cryogénisés et exposés en compagnie d'un couple gersalémine à l'intérieur du palais épiscopal de Vénitia. Une nouvelle qui l'avait à la fois soulagée, elle confirmait son intuition qu'elle n'était pas morte, et inquiétée, qui les tirerait de leur sommeil de glace. Son esprit resta un long moment suspendu au-dessus d'un gouffre de détresse, tandis que les bits des données historiques, imperturbables, continuaient de bâtir leurs vibrantes cités ondulatoires.
Deuxième étape, déploiement des skaïtes sur les mondes humains. Les maîtres germes expédièrent d'abord une centaine de skaïtes sur les planètes majeures de la Confédération de Naflin. Ils utilisèrent de nouveau les Xaxas, car d'une part, ils ne voulaient pas donner l'éveil aux humains en réparant les vaisseaux échoués, et d'autre part, ils n'avaient pas encore accès aux déromates. Enfin, s'ils pouvaient dissoudre les enveloppes matérielles et récupérer les germes à distance, ils ne pouvaient pas transporter ces mêmes enveloppes par la seule force de leur impulsion. Note, la télé ou psychokinésie semblerait rester l'apanage des humains sources ou humains reliés au cœur vibrant de la création. Ils furent donc contraints d'en appeler à la gardienne de la porte et à ses créatures. Les sanskaïtes de la première vague reçurent un nom individuel et furent transportés par les Xaxas sur les mondes du centre en l'an 7157 du calendrier standard de la Confédération de Naflin. Ils étaient, sont, seront, imprégnés de la haine primitive transmise par l'ADN de la femme, et certains d'entre eux rencontrèrent des difficultés imprévues à s'accoutumer aux hommes. Ils réagirent parfois violemment face à leurs interlocuteurs humains, peut-être également parce que ces derniers, forts de la supériorité que leur conférait leur statut, les considéraient comme des monstres et tentèrent d'en faire leurs esclaves. Il advint que le contrôle de ces germes atypiques échappa provisoirement à l'hyponériarcat. Ils se révoltèrent et, comme ils étaient insensibles aux armes lumineuses ou ondulatoires, ils massacrèrent des milliers de membres des populations autochtones. L'hyponériarcat parvint à dissoudre leur enveloppe, à récupérer et à reconditionner leurs germes. Le but n'était pas de tuer les hommes, car bon nombre de races humaines croyaient à la transmigration des âmes, et, comme elles composaient le cœur vibrant de la matière, les chants quantiques se pliaient à leurs croyances. Tuer les humains sans effacer leur pouvoir créateur reviendrait à les voir ressurgir sous d'autres formes, à d'autres endroits. Sur les 100 premiers skaïtes, il en resta cependant 10 qui s'infiltrèrent dans le gouvernement de Bella Syracusa, l'une des planètes majeures de la Confédération, où ils furent utilisés à des fins d'espionnage télépathique. Ils recueillirent des quantités phénoménales de données qui entrèrent dans les calculs de probabilité et affinèrent l'analyse psychologique, sociologique, ethnologique, historique et scientifique des maîtres germes. Ainsi furent fabriqués les déromates intégrés dans la cuve, d'une puissance 1000 fois supérieure aux appareils humains. Troisième étape, mise en place définitive de l'armée des skaïtes et prise de contrôle progressif de l'esprit humain. Les Syracusains se reposèrent de plus en plus sur les skaïtes pour la gestion de leur planète et pour les relations avec les autres planètes de la Confédération. Les envoyés de l'Hyponéros furent ainsi conviés aux assemblées, Asma, quinquennale de la Confédération, et pénétrèrent dans les rouages mentaux des Smellas, les gardiens mentaux des institutions. Ils remarquèrent que les Smellas utilisaient une méthode de lecture psychique qui leur permettait de deviner et de contrecarrer les manœuvres impérialistes des seigneurs régnants. Ils se proposèrent comme protecteurs de pensée auprès de la famille régnante de Syracusa, la famille Hang. Un dénommé Srimitsu, le plus perspicace des Smellas, l'un des trois derniers maîtres de la science indique, se méfiait de l'ambition de la famille Hang. Il voulut proscrire la présence des Skaïtes aux Asmas, décision à laquelle s'opposa violemment la délégation syracusaine. Quatrième étape. Nomination de Pamings au poste de connétable et essor de la protection mentale. En l'année 8104 du calendrier standard, le seigneur Argeti Hang nomma le germe Pamings, un Skaïte des échelons supérieurs, au poste de connétable de Syracusa. En cela, Argeti Hang ne fit qu'entériner une décision que les calculs de probabilité de la cuve avaient rendue inéluctable. Sous-embranchement historique. Skaïte des échelons supérieurs. Au bout de quelques dizaines d'années de fonctionnement, des Skaïtes se révélèrent plus performants que d'autres. L'hyponériarca ne trouva pas d'explication rationnelle à ce phénomène. Les réactions imprévisibles des cantons peut-être. Mais il le prit en compte pour promouvoir le concept d'antenne majeure. Les Skaïtes des échelons supérieurs ou antennes majeures furent dès lors chargés de rassembler les données des germes placés sous leur responsabilité et furent habilités, sous certaines conditions, à faire preuve d'autonomie. Sous l'autorité de Pamings, antenne majeure des quatrième et cinquième étapes du plan, se développa l'activité des lecteurs ou inquisiteurs. Note, anciennement espions télépathiques, et des protecteurs. C'est ainsi que les 10 000 germes de l'armée de l'incréé, 10 000, le chiffre idéal calculé par les probabilités, s'implantèrent peu à peu sur Syracusa. Une plateforme depuis laquelle ils purent œuvrer en toute tranquillité au démantèlement de la Confédération de Naflin. Les calculs de probabilité informèrent le connétable Pamings qu'il devait s'appuyer sur l'église du Kreutz pour entreprendre la conquête matricielle. Les religieux fanatiques manifestent une force de destruction, une volonté d'écrasement du genre humain qui s'accordent à merveille avec les intérêts de l'incréé. L'ambition démesurée de la famille Hang et le fanatisme de l'église du Kreutz, un appareil répressif d'une redoutable efficacité, furent les deux premiers grands atouts de Pamings. Cinquième étape. Éclatement de la Confédération. Anéantissement de l'ordre Apsurat. Avènement d'un tyran unique. En l'an 8149, Argeti Hang décéda, et son fils aîné, Ranti Hang, lui succéda sur le trône syracusain. Pamings s'appuya sur son frère cadet, Menati, nommé responsable de l'Interlis, pour renverser la Confédération de Naflin et inféoder tous les mondes humains à un empire centralisé. Il lui fallait pour cela vaincre l'ordre Apsurat, le garant secret des institutions. Les chevaliers et guerriers de l'ordre maîtrisaient les aspects les plus grossiers de la science indique, mais ils en avaient oublié les principes fondamentaux et avaient perdu leur statut d'être source. Pamings conclut une alliance avec les mercenaires de Prithive, les ennemis ancestraux de l'ordre, qu'il utilisa principalement pour l'exécution des basses besognes. Il trouva l'arme décisive qu'il cherchait lorsque des ethnologues syracusains l'informèrent d'une coutume perpétuée par les Amerines, une peuplade primitive de la terre des origines. Les hymnes de mort, autre survivance de la science indique. Les chants amerines enregistré par des germes expédiés sur Terra Mater, furent les éléments de base de l'apprentissage de la mort mentale. Le germe Harcot, un germe conçu de manière volontairement atypique pour l'étude approfondie du comportement humain, fut le premier à maîtriser les ultras de mort, ces sons qui, abaissés à un niveau très subtil, provoquent d'irréparables lésions dans les cerveaux humains. Pamings obtint ensuite la destitution et la condamnation à l'exil perpétuel du Smela Srimitsu. L'église du Kreutz exploita les penchants sexuels de celui-ci, pédophilie ou attirance pour les enfants, pour lui intenter un procès public retentissant. Enfin, le connétable intrigua pour que la nouvelle Asma quinquennale se déroulât sur Syracusa. La veille du commencement de l'assemblée, Pamings se fit exécuter Sri Alexu, le deuxième maître de la science indique, mais laissa échapper sa fille Afikit, probabilité négligée. Menée par Harcot, la cohorte des skaïtes tueurs mentaux, déguisée en protecteurs, s'infiltra dans le palais des assemblées de Vénitia. Ils trompèrent sans difficulté les détecteurs de sécurité, puisqu'ils ne portaient pas d'armes. Ils massacrèrent tous les seigneurs de la Confédération, leurs ministres et les Smella. Puis ils se rendirent sur la planète Selpdik, où ils défièrent et vainquirent les chevaliers de l'ordre Absurat, privé de chef, le Madi Sekoram, troisième maître présumé de la science indique, avait été assassiné 40 ans plus tôt. Et incapable d'opposer la moindre résistance aux ultras de mort. Le connétable éleva Harcot au grade d'expert, le chargea de tuer Ranti Hang et organisa le couronnement de Menati Hang, qui devint officiellement empereur en l'an 8169 du calendrier standard, ou en l'an 1 de Lang Empire. L'église du Kreutz, proclamée religion officielle, multiplia les inquisitions mentales. Même si Afikit Alexu et Tixu Oti, un petit employé de la CILT, se glissèrent inexplicablement entre les mailles du filet et modifièrent sensiblement les probabilités, l'incréé pressa les cartes mères de passer rapidement à la sixième étape du plan. Sous embranchement historique. Tixu Oti. Résumé. Le parcours préalable de ce natif d'Orange, depuis son enfance vagabonde jusqu'à son affectation à l'agence CILT de la planète Deux Saisons, ne laissait guère présager qu'il marcherait sur les traces des maîtres de la science indique. Non seulement il fut épargné par les lézards géants du fleuve Agripam de la planète Deux Saisons, mais il échappa à l'inspobot à reconnaissance cellulaire de la compagnie et, selon de fortes probabilités, délivra Afikit Alexu du monastère Absurat au moment de la bataille de Ouat. L'hyponériarca perdit sa trace jusqu'à ce que le sénéchal Harcot la retrouve sur Terra Mater et lance l'opération Marty de Kervaleur. Additif au sous-embranchement historique. Tixu Oti est venu de lui-même se dissoudre dans la cuve pour une raison que les maîtres germes n'ont pas encore isolée. Selon les probabilités, l'hôte de l'Hyponéros aurait dû être le Madi Shari des Imlias. Le son qui protège son esprit ralentit les échanges et offre une cohérence telle que les programmes de déstructuration conçus par les cartes mères n'ont pour l'instant obtenu aucun effet probant. Autre sous-embranchement proposé. Tixu Oti, cadre natal, précision. Tixu Oti, enfance, précision. Tixu Oti, adolescence, précision. Tixu Oti, mariage, précision. Tixu Oti, paternité, précision. Sixième étape. Harcot, le germe atypique, fut l'antenne majeure de la sixième étape du grand dessin. La zone de carence, de vide dont ses circuits cérébraux avaient involontairement été affectés, l'entraîna à cultiver ses facultés mentales, et il devint le modèle de base pour le modèle de l'effacement. Comme prévu, il entra en conflit avec Pamings, intrigua auprès du moufti de l'église et de Menati Imperator pour obtenir la disgrâce du connétable et devint sénéchal. L'hyponériarca lui ordonna de généraliser l'effacement mental. Influencé par l'affect humain, il refusa dans un premier temps. Réaction iratype, irrationnelle, atypique. Mais la menace d'une dissolution, la peur de perdre son acquis individuel, réaction iratype, le contraignit à s'exécuter. Il fit construire les miradors à pensée, des tours imposantes dont l'impact psychologique n'est plus à démontrer. Puis il exerça les skaïtes des échelons supérieurs à stimuler leur potentiel cérébral. Cependant, il refusa de divulguer d'importantes informations qu'il dissimulait dans une mémoire cachée. Réaction iratype, inaccessible à l'hyponériarca. Son comportement, s'il permit de mieux saisir les mécanismes fonctionnels des dieux humains, induisit une incertitude et motiva l'intervention de l'incréé auprès des cartes mères. Sous-embranchement historique. Mirador à penser. Le mirador est un symbole universel de répression chez les hommes. Les vainqueurs des guerres interhumaines enfermaient les vaincus dans des camps et les contrôlaient depuis ces tours de surveillance. L'usage des miradors se généralisa lors de la guerre des pensées de Terra Mater, la Terre, un conflit meurtrier qui marqua le début de la conquête spatiale. Septième étape. Les probabilités de la cuve estimèrent que le temps était venu de fonder le troisième conglomérat, un conglomérat qui permettrait de fabriquer des cuves matricielles sur Syracusa et de transformer sur place les skaïtes protecteurs en skaïtes effaceurs. L'hyponériarca ordonna la fusion des germes Arcot et Pamings. Ce dernier, enfermé depuis plus de 16 années dans une salle condamnée de l'ancien palais seigneurial. Les implants cachés de Pamings se déversèrent dans le centre cérébral d'Arcot, comblèrent son vide artificiel et stimulèrent ses impulsions de haine à l'encontre de l'humanité. Note additive. Les nouvelles réactions iratypes du germe Arcot tendraient à montrer que ce vide n'a pas été entièrement comblé, et les calculs de probabilité penchent actuellement pour sa dissolution et son reconditionnement. Le sénéchal s'appuya sur le vicariat de l'église du Kreutz pour ourdir l'assassinat du moufti Barophile le 24e, devenu incontrôlable, et le remplacer par Fraciste Bog, un jeune cardinal dont l'intransigeance, le fanatisme et l'absence de vice rédhibitoire faisaient un souverain pontife idéal. Sous-embranchement historique. Fraciste Bog, natif de la planète Markina, fils d'une lingère de la ronde maison aux 9 tours. Il entra à l'école locale de propagande sacrée à l'âge de 15 ans, où son zèle et ses résultats lui valurent les félicitations de ses professeurs et du cardinal-gouverneur de Markina, Dormir de Gare. Il fut admis à l'ESPS de Vénitia en l'an 8 de Langue Empire. Il s'y montra tellement brillant qu'il devint, à l'âge de 31 ans, le plus jeune cardinal de toute l'histoire de l'église du Kreutz. Une réussite remarquable pour un paritole, non syracusain. Il fut nommé gouverneur de la planète Ugène en l'an 16. Le gazage du terrarium nord d'Anjor et l'extermination de millions de Carentins fut le point d'orgue de la répression féroce qu'il orchestra sur Ugène. L'enquête de candidature menée par les vicaires le désigna, en dépit de ses origines markinatines, comme le meilleur candidat, le plus malléable, à la succession de Barophile le 24e. Après qu'un effaceur lui eut implanté un programme spécifique dans le cerveau, il étrangla Barophile le 24e, reçut la tiare, la crosse, le corin Don Julien, et prit le nom de Barophile le 25e, en 17 de langue empire. Sous embranchement additif, le moufti Barophile le 25e est devenu, comme son prédécesseur, incontrôlable. A-t-il établi le lien entre la religion du Kreutz et la science indique? Probabilité 37,49%. Est-il devenu un être source? Probabilité 13,08%. Quoi qu'il en soit, il représente désormais une incertitude. À ce titre, il fait peser un danger sur le grand dessein, comme le Madhishari des Imlias, comme l'utigénien Jack Atkin, et doit être éliminé dans les plus brefs délais.
L'esprit de Tixou fut traversé par une ondulation de joie. Shari, dont il était resté sans nouvelles depuis plus de 7 ans, était revenu de son long et difficile voyage initiatique. Si l'hyponériarca l'élevait au rang d'adversaire dangereux, c'était sans doute qu'il avait découvert les annales indiques. En revanche, Tixou ignorait qui était ce Jack Atkin et ne comprenait pas très bien les raisons qui poussaient les maîtres germes à vouloir évincer le moufti de l'église du Kreutz. Comment en était-il arrivé à conclure que la religion kreutzienne était une expression de la science indique?
Sous embranchement historique, Shari Rampulin, natif de Terra Mater, dernier descendant du peuple Amerin. La manière dont il échappa à la destruction d'Exode, la ville volcan des Amerin, demeure un mystère. Un pouvoir d'humain source, une intervention du gardien des annales, auquel se heurta l'incréé pendant plus de 15 000 ans. Bien qu'il hanta depuis plus de 10 ans la conscience collective humaine, sous le nom de Madhishari des Imlias, les probabilités de la cuve hésitèrent longtemps à le considérer comme un être réel, preuve qu'il possède des pouvoirs de dissimulation hors du commun. L'hyponériarca retrouva sa trace grâce aux informations recueillies dans le cerveau d'Oniki Kay, une tutale de la planète Éphrène que Shari des Imlias féconda à l'intérieur même du cloître du Tuta. Père d'un garçon nommé Taoufraïm, il s'éclipsa de nouveau pendant 3 ans, jusqu'à ce qu'il fasse sa récente réapparition sur Syracusa. Sous embranchement additif, Shari Rampulin et Jack Atkin ont tenté de délivrer Afikit Alexou, sa fille, et les deux Jérusalem la nuit dernière, le 8 de Cestius. Ils ont récupéré 2 codes de réanimation cryogénique. Le dispositif mis en place par le sénéchal Arcot n'a pas eu l'efficacité escomptée, ce qui accroît les probabilités en faveur d'une dissolution immédiate du germe Arcot. Car, bien que Shari Rampulin ait été touché par un rayon cryo, ils sont parvenus à s'enfuir et... Sous embranchement d'actualisation... Communication du sénéchal Arcot. Communication du sénéchal Arcot.
Tixou se transporta instantanément dans la zone libre où s'échouaient les échanges extérieurs. Les informations expédiées par les germes extérieurs, d'une fréquence plus basse que les communications internes, comme encore imprégnées de matière, composaient une symphonie hurlante, blessante, une succession d'explosions vibratoires, que les capteurs des conglomérats transformaient peu à peu en un langage subtil et cohérent. Cette faculté qu'avait l'hyponérose de dialoguer avec les germes extérieurs disséminés sur les mondes recensés, même si c'était par l'intermédiaire de Skaïte Relais, postés sur des planètes intermédiaires, étonnait toujours autant Tixou. Les cartes-mères avaient su, bien mieux que les hommes, tirer la quintessence du potentiel cérébral humain.
Du conglomérat extérieur aux 2 conglomérats de la cuve. les derniers à avoir aperçu le Mahdi Shari des Imlias et l'Utigénien Jake Atskin sont des serviteurs du palais et des promeneurs. Après inquisition mentale, il ressort que Shari Rampoulin a bel et bien été touché par un rayon cryogénisant, mais Jake Atskin aurait réussi à le ranimer avant l'intervention des forces de l'ordre. Depuis, il demeure introuvable. Ont-ils récupéré les codes? Renseignements déjà fournis, 2/4. Ont-ils récupéré les codes?
Aucun. Ces codes n'étaient que des leurs. Je conserve les 4 codes réels sur moi. Attention, 3e conglomérat, réaction iratype. Vous devez nous communiquer les données exactes des opérations si vous voulez être soutenu par les calculs de probabilité. Vous êtes toujours sous la menace de dissolution et de reconditionnement.
Loi 8 des cartes mères, aiguillage de sécurité. Un conglomérat ne peut pas être dissous.
Commandement de l'incréé. Sera dissoute toute entité, plurielle ou singulière, qui représente une menace pour son avènement. Ce commandement annule la loi 8 des cartes mères. L'incréé condamne l'hyponéros à disparaître en même temps que les humains.
Bien qu'elle ne durât qu'une infinitésimale fraction de seconde, l'hésitation de l'hyponériarca n'échappa pas à l'attention de Tixou. Il se demanda si cet atermoiement ne trouvait pas une explication dans les mémoires cachées dont il ne possédait pas les modalités d'accès. Une intuition lui souffla que les maîtres germes avaient élaboré un plan d'où étaient exclus l'incréé et les cartes mères, et que le sénéchal Arcote, ce germe si difficile à manipuler, occupait une place prépondérante dans ce projet parallèle et secret.
Réaction iratype, 3e conglomérat. Votre réaction est également iratype. Pourquoi ne lancez-vous jamais l'impulsion de dissolution dont vous me menacez depuis plus de 4 années standard?
Le nouveau temps d'hésitation des maîtres germes, de l'ordre du millionième de seconde, conforta Tixou dans l'idée qu'il devait trouver rapidement un moyen de pénétrer dans les mémoires cachées de la cuve. Il y découvrirait peut-être la faiblesse de l'hyponéros et le moyen d'aider Shari et ses partisans à libérer Afiki Teyel.
Les probabilités variables indiquent que Shari Rampoulin, évitez de l'appeler le Mahdi Shari, 3e conglomérat, le langage est un éclat du verbe, et le verbe est créateur, et Jake Atskin effectueront une nouvelle tentative de récupération des 2 derniers codes, ou plus exactement, des 2 objets qu'ils croient être les 2 derniers codes.
Loi 2 des cartes mères. Nous ne sommes pas issus du verbe, et nous n'avons aucun impact sur les champs de matière. Nous n'entrons pas dans la relation entre le Créateur et sa création. Nous ne sommes que des implants artificiels.
Ce langage ressemble fort à un sentiment de nostalgie, 3e conglomérat. Mais là n'est pas le problème. Notre rôle est de hâter le règne de l'incréé, et là, il est censé s'arrêter.
Vous n'avez guère de prise sur moi, maître Germe. Tant que l'humain Tixou Oti résidera dans la cuve, vous n'oserez pas procéder aux impulsions de dissolution. Détrompez-vous. Nous avons seulement suspendu les impulsions de restructuration. Où en êtes-vous avec le moufti de l'église?
Il s'est entouré d'une véritable armée et s'est barricadé dans ses appartements. Nous comptons lancer l'assaut dans 3 jours, le 11 de Cestius. 2 bataillons de mercenaires de Prytive et plus de 1000 interliciers munis de canons à rayons momifiants.
Ne craignez-vous pas une réaction violente de la part de la population vénitienne?
Question superflue. Ne craignez-vous pas une réaction violente de la part de la population vénitienne?
D'une part, les effacements ont réduit à néant le risque de révolte des populations humaines. D'autre part, les Vénitiens n'ont qu'un désir, chasser l'actuel moufti le Marquinatol du trône pontifical. Quel sort réservez-vous à Phraciste Bog? Information déjà communiquée. S'il ne trouve pas la mort dans l'assaut, il sera traduit devant un tribunal d'exception et condamné à la croix de feu à combustion lente. Nous aurions préféré une solution moins expéditive. La mort ne résout pas le problème humain. Objection déjà formulée. Les effacements n'ont aucun effet sur l'effet du moufti. Je suis dans l'obligation de le neutraliser de manière physique. De toute façon, les annales indiques se seront éteintes avant qu'il ait eu le temps de revenir dans une autre enveloppe corporelle. Ce n'est pour l'instant qu'une probabilité, troisième conglomérat. Nous ne savons pas ce que sont devenues les âmes, les souffles, de Sri Mitsu, de Sri Alexu, du Madi Sekoram, du Mufti Barofil le 24e. Elles sont peut-être déjà revenues sous des formes que nous ne connaissons pas. Les âmes séparées de leur enveloppe matérielle sont des facteurs aggravants d'incertitude.
Probabilité négligeable, maître Germe. Rien ne démontre la réalité de la transmigration.
C'est faire bien peu de cas des annales indiques.
Que savons-nous des annales indiques? Des hypothèses formulées à partir des mythes de la création de l'univers. Cependant, si nous admettons le principe de transmigration, nous devons nous référer aux traditions humaines, et la plupart d'entre elles affirment que la réincarnation d'un principe d'éternité, pourrions-nous appeler cela un quantum, vérifié, nécessite une longue période de transition, jusqu'à plusieurs siècles. Nos chances d'être importunés par l'âme du Mufti Barofil le 25e sont très minimes, pour ne pas dire nulles.
En ce cas, pourquoi conserver les corps congelés d'Afikit Alexu, de sa fille et des deux Gersalimine?
Question surprenante de votre part, conglomérat de la cuve.
Pourquoi conserver les corps congelés d'Afikit Alexu, de sa fille et des deux Gersalimine?
Pour inciter Shari Rampoulin et Jekatskin, les deux derniers êtres sources, à venir les délivrer. Se déplacerait-il pour des cadavres?
Êtes-vous certain, troisième conglomérat, que Shari Rampoulin et Jack Atkin sont les deux derniers êtres sources?
Ce fut Arcot qui marqua un temps d'hésitation.
Précisez, maître Germe.
Les mythes humains auxquels vous faisiez allusion ont tous pour objet d'indiquer le chemin des annales indiques. Soyez attentifs aux communications des relais troisième conglomérat. L'humanité ne se laissera pas remplacer sans jeter ses derniers feux.
Remplacer, le terme est-il approprié?
De notre part, le jeu sur les mots serait un comportement iratype qui mériterait la dissolution.
Tixou cessa de déambuler entre les édifices de données et se concentra sur la recherche des mémoires cachées de l'Hyponéros. Il n'avait pour l'instant pas d'autre moyen d'influer sur le cours des événements. L'Hyponériarca avait suspendu les impulsions de restructuration, lui interdisant de se glisser dans une enveloppe matérielle et de se transporter sur Syracusa pour prévenir Shari du piège que le sénéchal Arcot lui avait tendu. Il fureta dans les édifices de données et découvrit dans les rues formées par les zones de séparation des fichiers des sortes de couloirs dont il lui fut impossible de forcer le passage. Il se heurta à plusieurs reprises à un véritable mur de vide. Il eut beau insister, tenter de franchir l'obstacle de toutes les manières, il ne réussit pas à pénétrer dans ces tunnels qui, cela ne faisait pas l'ombre d'un doute, conduisaient aux mémoires cachées. Il changea de stratégie. Il se stabilisa devant l'entrée d'un couloir et fit appel à toutes ses ressources mentales, à ses propres mémoires cachées, pour essayer de trouver un moyen de pénétrer dans le projet occulte des maîtres germes. Il perdit peu à peu conscience de son humanité.
il ne fut plus qu'un pur esprit, un ensemble de données confrontées à un autre ensemble de données, une succession de probabilités, d'aiguillages, d'embranchements ouverts ou fermés. Seul l'antra, qui vibrait en sourdine dans une zone profonde de son être, l'empêcha de se fondre définitivement dans les mécanismes de l'hyponéros. Un silence profond ensevelissait le liquide matriciel des cuves.